Elle est ronde, elle est douce, elle est veloutée, tricotée, dessinée, animée. Ici, elle est un coquillage et là, c'est un drôle de pliage, une pêche, un origami, un porte-monnaie, une pâtisserie. Elle est pop et plutôt jolie. Mais oh, c'est quoi? On dirait que c'est une vulve. Oui, c'est bien ça. En gros plan, au milieu de l'écran, elle nous cueille, elle nous fait de l'œil. C'est la dernière campagne Nana, elle fait scandale au CSA. Mais ça va pas, qu'est-ce qui vous prend? Et vous pensez à nos enfants? C'est des centaines de signalements. Téléspectateurs mécontents. Une pétition en ce moment recueille 12 000 signatures pour en appeler à la censure d'un film de 30 petites secondes. Il est ignoble, il est immonde, il est révélateur surtout d'un monde qui bouge avec MeToo. Comme la foudre nous aurait frappé tout à coup, les yeux dessillés, on les trouve bizarres, ces images des femmes à poil pour du carrelage, une paire de fesses pour un chauffage. On se dit qu'on en a peut-être assez de ces femmes infantilisées ou bien hyper sexualisées pour vendre des machines à laver. Doucement, on se met à espérer une pub un petit peu moins cliché, plus créative et plus osée, où les femmes ne seraient plus objets, elles pourraient même être sujets dans ce monde-là. Et dès maintenant, les règles seraient rouge sang parce qu'elles ne seraient plus taboues. Je rêve, je sais, c'est fou. Mais voyez-vous, après MeToo, on peut se dire qu'on ose tout.
France Inter. Julia Foyce. Pas son genre.
Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une Audi.
Il aura la femme.
Téléportation 1993, et ça pique un peu. On en est où aujourd'hui? Pourrait-on encore entendre ce type de slogan? La pub est-elle encore sexiste? Et puis pourquoi? Et puis comment? C'est la question qu'on se pose ce soir. Et sachez-le, avec L2, vous ne regarderez plus jamais les coupures pub comme avant. Christelle Delarue, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice de la première agence de pub féministe Mad and Women et de l'association Les Lyonnes. Vous nous direz ce soir ce qui, aujourd'hui, vous fait rugir, évidemment. Marion Vaquero, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous qu'on retrouve derrière les comptes Instagram et Twitter pépites sexistes et vous nous apprendrez à les débusquer, ces pépites. Mais d'abord, pour planter le décor, question rituelle en début d'émission, dites-nous ce qui, chez vous, pourrait faire mauvais genre, Christelle Delarue.
Moi, c'est d'avoir monté une boîte féministe dans une industrie machiste. Ça fait vraiment mauvais genre.
Quelles ont été les réactions quand vous vous êtes lancée?
Elles ont été plurielles, des hommes qui se sont dit mais pourquoi, on n'a pas besoin, on a finalement une pub faite par une femme ou par un homme, c'est pareil. Mm-hmm. Et dans les faits, non, le diagnostic et le coup près tombe, réalistiquement c'est très différent. Et puis des femmes qui se sont posé la question, tiens, j'en suis où moi de mon féminisme? Ouais. Et est-ce qu'on peut être féministe et avoir une agence de publicité?
Et la réponse avec vous, c'est oui. Marion Vaquero, qu'est-ce qui ferait mauvais genre chez vous?
Alors moi, ce qui ferait mauvais genre, je pense que ce serait vraiment le fait que je vois le mal partout et que j'ai pas d'humour.
Évidemment, chose qu'on vous renvoie assez régulièrement pour ceux qui suivent votre compte. Ça vous empêche pas d'avoir des milliers de followers. Combien? Vous en avez près de 50 000, je crois.
Alors maintenant, tout réseau confondu, on est plus de 100 000.
Eh ben voilà, ouais. Ça fait très très mauvais genre, excusez-moi. Elle a commencé comme choriste et elle a décidé de prendre le micro toute seule, comme une grande. Rien que ça pourrait aussi faire un peu mauvais genre, tant mieux. On adore ça, c'est Alani sur France Inter. Ooh, ooh.
Please, Papa, don't want me. Anywhere I have me. Papa, dernier single de la chanteuse-compositrice-interprète britannique Alani qui nous embarque ce soir autour de la planète genre en général, du merveilleux monde de la publicité en particulier. Les stéréotypes sexistes sont-ils en voie de décomposition accélérée? Réponse avec nos deux invités, Marion Vaquero, fondatrice de l'association Pépites Sexistes, et Christelle Delarue, présidente de l'agence Mad and Women et conseillère spéciale pour l'UNESCO sur les questions de genre. Oui, madame! À la technique ce soir, Florent Layani, Marianne Crimbaud pour la réalisation et Romy Engel, c'est notre attaché de production. Voilà, vous savez tout, ou presque, alors on peut y aller.
Passons genre.
Vous reconnaissez évidemment toutes les deux ce qu'on est en train d'entendre là, la fameuse campagne Viva la vulva de Nana avec ce slogan en fin de spot, on ose tout. Vous êtes d'accord Marion Vaquero, fallait oser pour la faire celle-là?
Oui, je pense qu'il fallait oser, oui. Oui.
Pourquoi?
C'est vrai que ça.
Qu'est-ce
encore...
qui est nouveau?
Alors, déjà le fait de voir des vulves danser à la télé, ça c'est relativement
nouveau. Et de voir des vulves danser plus court, hein, je pense que c'est assez nouveau.
Ouais. Et déjà le mot vulve, en fait, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent. Ouais. Et le fait de voir aussi du sang rouge dans une pub, ça c'est quand même relativement nouveau. Et donc fallait oser.
Fallait y aller. Okay. Oui. Certains ont salué cette audace. Ouais. D'autres, ceux qui ont signé la fameuse pétition ou appelé le CSA, dénoncent au choix des images choquantes pour les enfants, une image dégradante de la femme, une volonté de faire le buzz à tout prix. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Christelle Delarue?
Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on ose bousculer les mentalités ou faire avancer les représentations, ça gêne une partie de la population. Mais il n'y a pas de progrès sans heurte. Et on est à la télé, on est en France. Il faut savoir que cette publicité, elle a été interdite sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a un nombre de comptes sur les réseaux sociaux qui sont pour l'émancipation des femmes, avec des représentations très différentes, hyper célébratifs. Et à la télé, ce grand média très protégé, on ne supporte pas de le voir parce qu'il y a des gens qui sont encore assez conservateurs sur ces questions-là.
Alors, Nana s'est défendue en disant qu'elle voulait à la fois valoriser la vulve, le sexe féminin. Et effectivement, les images sont très jolies. La réalisation est hyper bossée. Le rythme est... Enfin, et puis, on l'a entendu, la musique, elle est chouette, etc. Et puis, elle dit, on veut aussi normaliser. Parce que 62% des femmes ne savent pas définir correctement ce qu'est une vulve. Une sur deux trouve la sienne imparfaite. Donc en ce sens aussi, c'était important de faire une pub comme celle-là, Marion Vaquero. Il y a du travail à faire et c'est aussi à la pub de le faire, ce travail-là. Ce travail sociétal, je veux dire.
Ouais. De toute façon, je pense que la pub, c'est vraiment pas que le miroir de la société. Il normalise aussi certains actes, certains comportements et en fait certains tabous. Et le fait de justement montrer des vulves, de les représenter, de montrer du sang comme ça, ça permet en fait d'atténuer ce tabou, on va dire, sur les règles. Mm-hmm. Sachant que, encore en France, il y a un tabou. Les femmes ont quand même honte d'avoir leurs règles. Mm-hmm. Donc, c'est 44% des Françaises, il me semble, qui éprouvent encore de la honte vis-à-vis de leurs règles. Donc, c'est important d'en parler, de montrer que, il n'y a pas de tabou, c'est normal, c'est...
Ouais, alors, Christelle Delarue, vous avez lancé pour Always le premier compte Instagram Gémérec, premier compte sur les règles. Vous diriez qu'on en est où en termes de tabou sur cette question-là?
Le tabou des règles n'est toujours pas tombé. C'est malheureux. Ça fait 2 ans à peu près qu'il est tombé avec les sportives qui assumaient, quand elles avaient leurs règles, de peut-être être moins compétitives. Donc ça prend différentes formes. Les médias s'en emparent, les gens se posent des questions. C'est lié à l'éducation. Je pense qu'on n'a pas éduqué les petites filles et nous-mêmes, on n'a pas été éduqués à accepter que d'avoir ces règles, c'était normal.
Et vous pensez que ça peut être au rôle de la pub d'éduquer?
Oui, absolument.
Ouais,
je pense qu'il y a beaucoup de consommatrices qui se posent des questions. Dès lors que à la puberté, les jeunes filles perdent confiance en elles. Mmh. Je pense que des marques qui sont installées sur ce secteur-là depuis 25 ans pour Always, Procter & Gamble, qui sont sur la confiance des femmes, c'est une autre manière par rapport à Viva la vulva de le faire. Mais c'est très intéressant de voir que les jeunes femmes sont en demande sur les réseaux sociaux d'éducation. Donc dès lors qu'on apporte une réponse à cette éducation, elles prennent confiance avec leur corps, leur représentation et leur tabou. Donc un compte Instagram qui a ses règles, c'est donner la possibilité au cas par cas à toutes les femmes de poser des questions, de débattre sur ce que c'est que leur corps au quotidien.
Alors c'est très très étonnant de voir les téléspectateurs choqués par cette pub Nana, de s'indigner d'images, je cite, dégradantes pour les femmes, quant à la télévision en 2019, et sans que ça ne choque personne, on peut encore entendre des choses comme ça.
J'adore marcher dans Paris avec toi.
Ouais,
Et je voulais te dire, bébé.
Quoi encore?
Tu m'épousais.
Ah, mais t'es trop mignon de croire que je vais t'épouser alors que t'es même pas capable de me payer un resto.
Mais je fais ce que j'aime comme métier dans la vie, je suis épanouie.
Bah oui, mais peut-être que toi tu fais ce que t'aimes, mais moi j'aimerais bien pouvoir me payer ce que moi j'aime. Regarde, même ta bague, elle vaut même pas 1000 euros. Le mec de Jessica, il lui a offert une bague à 10 000 euros. Donc non, je vais pas t'épouser. Et puis d'ailleurs, bah, c'est fini entre toi et moi. Oh, mais qu'est-ce que t'as?
Je viens de gagner 500 000 euros sur Bravo Loto.
500 000 euros Bravo Loto, c'est quoi?
Bravo Loto, c'est une application de ouf sur laquelle tu remplis des grilles et il y a plusieurs tirages par jour. Et le gros plus, c'est que c'est complètement gratuit. Et là, je viens de gagner 500 000 euros.
Ah mais mon amour, mais c'est génial. Mais tu te rends compte que ça veut dire qu'on va se marier, on va avoir la vie de nos rêves.
Mais tu venais pas de rompre là?
Mais non, ça c'était de l'humour. Non, je suis tellement émue par ta demande. D'ailleurs, je te dis oui.
Eh ben moi, je te dis non, au revoir.
Marion Vaquero, c'est l'une de vos pépites sexistes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de partager celle-là spécifiquement avec nous ce soir?
Oui. Alors déjà, c'est vrai que je reçois beaucoup de pubs stéréotypées sexistes. Et en général, c'est des clichés qu'on retrouve souvent comme le rôle de la femme, c'est la maternité, c'est de s'occuper des autres.
C'est pas ça.
Et là, pour une fois, c'est la femme vénale. Et c'est tellement rare voir ça en ce moment. Et là, c'était une pub de 2018, il me semble. Donc voilà, donc c'est rare de voir encore ce cliché de la femme vénale parce que c'est quand même vieux, ça. On pensait que c'était un petit peu fini.
Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont hermétiques? Qu'un créatif qui fait ça est totalement hermétique au bruit du monde, à l'environnement, se rend pas compte que...
Je pense qu'ils ne se rendent vraiment pas compte, en fait. Hein. Ils doivent pas voir le problème. Mmh. Ils doivent au contraire considérer que c'est très drôle. Donc, du coup, il y a vraiment un manque de sensibilisation. Je pense pas que la volonté soit d'être sexiste ou de faire en sorte à montrer ce stéréotype de la femme vénale. Je pense juste que pour eux, c'est de l'humour.
Plus généralement, si on devait dresser un tableau rapide de la pub et de ses représentations sur la question du sexisme, on en est où aujourd'hui, Christelle Delarue?
Alors, il y a encore des campagnes qui sont sexistes. Le sexisme ou le publisexisme, en fait, il n'y a pas de loi. Donc, du coup, c'est au bon vouloir des créatifs et puis d'une certaine déontologie de la profession qui avance. Dès lors que les annonceurs, eux, ont envie de progresser, parce que c'est quand même normalement, la publicité, c'est quand même fait pour et vendre et faire avancer, aller vers de l'innovation, de la création. Hein, ouais. C'est un métier créatif, normalement. On est tous censés globaliser plus d'universalité ou de sociétal, puisque les entreprises, aujourd'hui, recherche cela. Et on se rend compte que tout autant dans la fabrication des images que dans les agences de publicité, on n'est pas égalité, il n'y a pas la culture de l'égalité, donc du coup il y a encore du sexisme qui est ambiant. Et là où c'est très insidieux le sexisme, c'est que ça peut se loger dans une blague, jusqu'à un cliché, un stéréotype et des violences sexistes, sexuelles, comme on a pu voir dans beaucoup de campagnes encore actuelles.
Et ça peut se nicher aussi dans une pub pour une Twingo, écoutez.
En ville, les rayures sont inévitables. Nous avons donc créé un produit unique. Renault présente Twingo Nail Polish. Des vernis assortis à la couleur de votre Twingo. Qui permettent aussi de retoucher les rayures. Sublimez vos ongles et votre voiture. Twingo Nail Polish.
Voilà, ça c'était votre choix à vous, Christelle Delarue. Qu'est-ce qu'elle raconte au fond, cette pub? Qu'est-ce qu'elle dit des publicitaires, des clients, de nous?
Elle dit que la femme est encore objet, que la femme, la jeune femme qui aimerait une petite citadine ne s'intéresse aux voitures que parce qu'elles ont le souci d'être jolies et d'accessoiriser leur voiture avec ce qu'elles sont. Donc ça, les femmes sont du coup rattachées encore un secteur qui est lié à la cosmétique. Donc on sait très bien que la presse féminine et nombreuses femmes sont les clientes de ce secteur-là. Mais derrière, on est dans une industrie automobile. Où les femmes, en fait, aujourd'hui, on sait très bien que les femmes, elles choisissent leur voiture, elles peuvent se payer aussi leur bagnole. Et malheureusement, un grand constructeur français, en 2017, après avoir signé une charte, ose sortir une publicité comme ça avec son agence. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée dès lors qu'elle sort.
Surtout qu'il y a eu un rapport, une étude faite par le CSA. En 2016-2017, ils ont analysé 2000 publicités. 67% des pubs sexualisées mettent en scène des femmes. Sur les rôles de chacun, les experts sont à 82% des hommes. Et sur les domaines où femmes et hommes interviennent, les hommes donc récupèrent l'automobile, les assurances, l'assurance, la banque, le numérique et les nouvelles technologies. Aux femmes, l'entretien du corps, l'habillement, la parfumerie, les loisirs, etc. Certains vous diront finalement, Marion Vaquero, que ça n'est que le reflet d'une société parce que, après tout, la répartition des tâches, elle est celle-là. Donc la pub ne fait qu'accompagner ça, cette tendance-là, qui de toute façon est à l'œuvre dans la société tous les jours, quoi.
Oui, mais c'est vrai, je le vois pour beaucoup de personnes, en fait, il y a vraiment en fait des stéréotypes qui sont biologiques. Donc les femmes naissent avec un
le
goût
gène
inné,
de jeter dans la poubelle.
Voilà, enfin, les femmes naissent avec le goût inné pour le repassage, le ménage, s'occuper des enfants, et les hommes naissent avec un goût inné pour le pouvoir, l'automobile, etc. L'argent. Alors qu'en fait, ça, on le sait, ce sont des stéréotypes qui sont construits vis-à-vis de biais, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'avec Pépite, on essaie justement de montrer ces biais, parce que pris individuellement, en fait, une pépite paraît anodine, on va dire, mais c'est l'accumulation qui va montrer que, en fait, ça va avoir un impact sur ce qu'on considère comme étant le rôle des femmes et des hommes dans la société.
Alors, ça dit, on est quand même à un tournant, on est loin du consensus, hein, mais il y a une petite prise de conscience. En mars dernier, MeToo a atteint le milieu même de la pub. Je rappelle rapidement pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, un premier scandale de harcèlement, d'autres témoignages qui suivent, des langues qui se délient, et on se rend compte que les créatifs eux-mêmes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Christelle Delarue, sont très, très empreints de domination masculine et de machisme. C'est pour ça que vous avez créé votre association, les Lyonnes.
Alors, j'ai pas eu le choix. Il y a de nombreuses femmes qui se sont tournées vers moi, comme j'étais dans la publicité la seule femme engagée féministe d'une génération entrepreneuriale assez libérée. Donc elles sont tournées vers moi et on s'est rendu compte, en effet, qu'au-delà de ne pas être à l'égalité de salaire ou de fonction et de titre dans cette industrie-là, les femmes subissaient des violences sexistes et sexuelles
dans les agences, dans les milieux de la pub. Mais tout part de là, alors, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer des pubs égalitaires si les agences
absolument,
ne le sont pas.
Absolument. Et je rappelle que l'affaire Weinstein, c'est la fabrication des images. Donc on est aussi lié à ce monde-là que l'on crée. S'il n'y a pas de femmes qui ont des rôles d'expertes ou des rôles de combatives, de la même manière, dans la pub, on n'aura pas suffisamment d'expertes et suffisamment de femmes qui seront maîtresses de leur destin. Donc c'est très important de considérer que la publicité, c'est soit une arme de construction massive, soit de destruction massive. Et les femmes sont épuisées à cavaler pour une taille 36 blanche à travers le monde.
Et puis de toute façon, les consommatrices comme les consommateurs, eux aussi sont peu à peu en train de s'éveiller. Grâce à votre compte, Marion Vaquero, 40 publicités ont été retirées depuis 2018. Comme celle de ce centre commercial de Roubaix, le slogan c'était « 4 mots peuvent rendre le sourire aux femmes ». Cette phrase m'écorche la bouche, mais je vais aller jusqu'au bout. « 4 mots peuvent rendre le sourire aux femmes, je t'aime et solde ». Publicité retirée, donc jolie victoire pour vous et pour tous ceux qui se battent pour une représentation des genres plus égalitaire. Et en même temps, sur cette pub-là, par exemple, comme à chaque fois, on vous reproche votre manque d'humour et votre paranoïa. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je dirais qu'en fait, là par exemple, quand j'ai posté cette pépite, je me souviens, la caption que j'avais mise, c'était Roubaix.
La caption.
Enfin, le commentaire, la description du tweet, c'était Roubaix, 2018. Je trouve que c'est plutôt marrant comme tweet. Donc, quand les gens me reprochent mon manque d'humour, je comprends pas parce que j'essaie justement de faire des descriptions, des commentaires qui soient marrants pour montrer l'ironie en fait et le fait que.
On va nous ressortir toujours la même histoire de la police de la pensée, du fait qu'il y a une liberté d'expression, qu'il y a une liberté de création, que ça n'est jamais que de la
pub.
Mais
c'est trop facile la police de la pensée. On n'a pas été les gendarmes de cette pensée, les femmes. Donc c'est encore trop facile de nous dire « Ah là là, vous arrivez, vous n'êtes pas contente, vous n'êtes pas drôle ». C'est encore des clichés, c'est-à-dire qu'on a besoin de discuter ouvertement et de débattre de ces sujets-là. Le pouvoir est au masculin dans de nombreuses industries, dans de nombreux secteurs. Il est temps que les hommes et les femmes parviennent ensemble à déconstruire ces schémas-là. Parce que c'est nos enfants, nos filles et nos petits garçons qui sont éduqués avec ce même imaginaire collectif.
Alors justement, puisque vous parlez des enfants, on écoute cette pub Ariel.
Attention aux pieds. Fais attention, c'est très très chaud. Alors, qui a du linge à laver? Ring, ring. Allô? Je suis désolée, je peux vraiment pas te parler. Il faut que j'y aille. J'ai une montagne de choses à faire.
Tout ce qu'il voit, il copie.
Ok, on s'appelle demain.
Mais est-ce qu'ils apprennent que la lessive n'est qu'un travail de femme?
Non, non, ça va. Ouais, je suis toujours là.
Où est-ce qu'ils voient leur papa le faire aussi? Partageons les tâches.
publicité Ariel qui date de 2018. Marion Vaquero, est-ce qu'on sait l'impact de la publicité sur les esprits en général, ceux des enfants en particulier? Est-ce que, comme le disait ce spot-là, ce que l'enfant voit, il le copie?
Oui, je pense clairement. Et surtout qu'en fait, là, en ce moment, encore 98% des pubs de lessive, d'entretien et de produits pour bébés ciblent les femmes. Donc du coup, ça normalise en fait que voilà, tous ces produits concernent les femmes. Et je reçois de plus en plus justement de pépites envoyées par des hommes qui ont aussi qui en ont marre, qui ont envie d'être représentés par les pubs.
Oui, parce que ces injonctions sont valables pour les deux, hein, pour
oui,
le coup.
Exact.
C'est-à-dire que hommes et femmes sont enfermés dans ces espèces d'assignations à résidence. Là, Christelle Delarue, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur, vous disiez qu'il n'y a pas vraiment d'instance de régulation du sexisme dans la pub, mais est-ce qu'il y a des critères objectifs qui font qu'une pub va être féministe ou sexiste?
Oui, une pub aujourd'hui féministe en 2019 voire 2020, c'est une publicité qui fait la promotion des femmes sans les assigner à un rôle diminué. Et puis c'est aussi une marque et une entreprise qui s'engage avec des preuves concrètes pour l'égalité, pour la promotion des salaires égalitaires, pour les congés parentaux. Donc on peut aller plus loin dès lors qu'on se dit que notre image externe n'est qu'un véhicule social qui peut toucher des gens pour faire acheter des produits. Et en plus on peut même se dire bah les produits peuvent être mieux confectionnés, les prix peuvent être égalitaires aussi sur le marché, et puis à l'interne dans l'entreprise, mobiliser ses salariés autour d'une culture de l'égalité. Aujourd'hui, nombre d'entreprises ont peur d'être attaquées sur les réseaux sociaux. Il faut décider de changer. Et dès lors qu'on décide de faire un pas vers le progrès, ben, finalement, ça fonctionne. 26% des publicités qui ne sont pas stéréotypées génèrent un retour sur investissement de plus de 26%.
Oui.
Mais ouais. Donc en fait, on a tout. Tout est au vert pour y aller. Et on se rend compte qu'il en existe encore. Donc c'est pour ça que moi, je félicite Marion chaque jour. Il existe encore un nombre de pépites. C'est incroyable. Et donc, c'est navrant. Il faut progresser. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de périmètre affiché sur le public sexy pour pouvoir le contrôler. Donc, il y a énormément d'initiatives de femmes. On fonde des agences féministes et engagées pour changer les annonceurs, mais il faut que l'ensemble de l'industrie avance, et concrètement.
Allez hop, une pub féministe et engagée, celle de la Caisse d'Épargne en 2018, elle aussi.
Vouloir. Vouloir créer. Vouloir choisir. Vouloir changer. Vouloir, c'est pouvoir. Dès 1881, la Caisse d'Épargne permettait déjà aux femmes de gérer leur argent sans l'aval de leur mari. 84 ans avant que la loi de 1965 ne les y autorise. Aujourd'hui encore, nous continuons à nous engager en faveur des femmes. Avec la signature d'un accord cadre avec l'État, avec pour objectif 40% de femmes entrepreneurs d'ici 2020 et la création du programme Femmes de Talent. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
C'est pas un peu gros ça quand même, Christelle Delarue? Est-ce qu'à force de femvertising, on risque pas de tomber dans le féminisme washing? Et j'utilise ces deux concepts à dessein. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre l'un et l'autre?
Ce que je tentais de faire peut-être tout à l'heure rapidement, le femwashing, c'est mettre plus de femmes partout sans respecter les différences des femmes, des corps et de leurs droits. Mm-hmm. Donc ça, c'est du femwashing, comme le greenwashing. Enfin, c'est utilisé
uniquement
à des fins commerciales.
Et on surfe sur la vague pour se faire bien voir.
Voilà. Mm-hmm. Et le femvertising, c'est engager un progrès interne avec l'entreprise, interne et externe. Et pourquoi pas aussi incuber des projets. Donc là, des programmes femmes de talent, se rappeler son historique, on était déjà là.
Qui est une cohérence, et qui est une
dynamique de changement, qu'on ne soit pas uniquement dans le déclaratif, mais bien dans le procédé d'action.
Alors on voit doucement approcher la période de Noël avec son catalogue de pépites sexistes. Pour le coup, Marion Vaquero, vous le sentez comment ce cru 2019?
Oh, je le sens bien.
C'est vrai?
Ben oui. Ben
vous avez été, je crois, invité à Bercy à rencontrer les industriels du jouet.
Oui. On a signé la charte du coup à Bercy, voilà, donc pour
charte contre les jouets sexistes,
contre les jouets genrés,
ouais.
Les jouets sexistes. Donc du coup, va y avoir des progrès en fait qui vont être faits sur de la fabrication à la distribution en fait, hein, donc packaging et même après sur les catalogues, distribution dans les donc fini les rayons genrés. Mais ça va pas se faire de suite parce que la charte a été signée, mais les catalogues étaient déjà en cours. Mais de toute façon, il y a eu du travail qui a été fait par d'autres associations, notamment les chaînes de garde, Oselle Féminisme avec la campagne Mardu Rose. Mmh. Donc c'est vrai que les marques étaient déjà au courant, donc on voit quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits. Je reçois là des catalogues de Noël justement, ouais. Et on voit du progrès.
Bon, et donc tout le monde est en violet.
Tout le monde peut choisir ce qu'il veut.
Lui, il a d'abord été une publicité vivante pour le balayage californien et les shorts en lycra avant de rameuter tout le monde sur le blouson de cuir et la barbe. 2-3 jours, il s'est caché longtemps. Il a joué souvent avec les codes, avec les genres musicaux, mais pas seulement. George Michael, too funky, est parfaitement notre genre. Oh oui! Ça fait du bien, petit Georgie, pour démarrer le week-end en beauté. On le fait ce soir dans Pas son genre avec deux mordus de publicité, Christelle Delarue et Marion Vaquero. Avec elles, car ils viennent de nous rejoindre en studio, Isabelle Motreau et Christophe Martin. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes respectivement directrice de la rédaction du mensuel Cosette et rédacteur en chef du média LGBT en ligne Committee. Tous les deux partenaires de Pas son genre, ce qui fait de nous un trouble. Je me suis dit ça en mon droit d'émission. Et ça m'a beaucoup plu. Allez, vive le polyamour sur France Inter.
France Inter, Pas son genre.
Isabelle Motreau et Christophe Martin, vous avez passé la semaine aux aguets, l'œil rivé sur ce qui fait notre actualité préférée, celle du genre et des sexualités. Avec vous, Isabelle, ça va être sport, mais on n'en dira pas plus. Et avec vous, Christophe Martin, on file à l'Assemblée, tout de suite l'Assemblée, qui vient de donner son feu vert, on le rappelle, pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. le même jour, mardi 15 octobre, mais ça, on le sait moins, on a débattu aussi, et dans le même cadre de la loi de bioéthique, des droits des personnes intersexes. Elles représentent, suivant les estimations, 2 à 4% de la population française. Ce sont des personnes qui naissent avec les caractéristiques physiques des deux sexes biologiques, hommes et femmes. Quelle est, Christophe Martel, leur situation en France aujourd'hui, surtout, qu'ont décidé les députés, là, cette semaine?
Alors c'est vrai que c'était la première fois que l'Assemblée nationale discutait de ça, et c'était important, et pour les associations des personnes intersexes c'était très important, mais ce dont on a parlé c'est principalement la façon dont on pouvait prendre en charge ces personnes. Il faut savoir aujourd'hui l'un des principaux problèmes aujourd'hui des personnes intersexes, notamment celles qui ont des variations au niveau, parce que l'intersexuation ça peut être hormonal, ça peut être chromosomique, et ça peut être aussi un sexe, on va dire, qui ne correspond pas aux normes, à ce qu'on attend. Et souvent, les bébés sont mutilés, tout simplement. C'est-à-dire que le médecin va considérer que ça, c'est pas assez masculin, donc on va le rendre plus masculin, et ça, c'est pas assez féminin, on va le rendre plus féminin. Et donc, on va mettre les gens dans des cases, sans évidemment leur consentement, puisque ce sont des bébés ou des enfants, avec des conséquences psychologiques et physiques très très graves à long terme.
Alors, à ceux qui, comme vous, disent mutilation, Agnès Buzyn rappelle que la loi veut qu'on opère à la naissance que ceux pour qui le pronostic vital pourrait être engagé, que ceux pour qui il y a de bonnes raisons médicales de le faire.
Alors il semblerait que la seule raison,
de mutilation généralisée, voilà, comme vous dites,
la seule raison médicale c'est que l'urètre ne fonctionne pas, voilà, point. Mais après tout le reste c'est du bricolage pour essayer encore une fois de conformer les gens à des genres en fait, et à des sexes prédéfinis par des médecins ou par...
Que demandent les intersexes aujourd'hui?
Eh ben ils demandent l'arrêt de ces mutilations. Il n'y a pas que les personnes qui le demandent, l'ONU le demande, la France a été condamnée déjà 3 fois pour ces mutilations, pour ces presque tortures, et donc ce qu'elle demande c'est principalement cela, c'est-à-dire déjà d'arrêter de ces mutilations et de voir avec la personne quand elle peut en parler, quand elle a conscience de ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle décide pour elle-même. Voilà, mon corps m'appartient, ça concerne tout le monde. Et ça concerne aussi les personnes intersexes, qui sont, comme vous l'avez dit, assez nombreuses. Hein, c'est 2% des gens.
Sauf que ceux qui sont pour le maintien du statu quo français vous disent aussi que opérer dès la naissance permet à un enfant de se conformer à un sexe, de vivre à l'intérieur de son sexe et de vivre plus sereinement et plus harmonieusement que quand dans une société genrée, on va lui demander de vivre avec un entre-deux.
Alors, aujourd'hui, oui, bien sûr, la situation est sans doute celle-là, mais malheureusement, c'est pas aussi simple, Julia. C'est vraiment, on parle quand même de mutilation dans la mesure où très souvent il y a des séquelles, il y a des séquelles physiques, il y a des traitements au long cours, il y a des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas. Alors bien sûr, mais c'est ce qu'on disait aussi par rapport au couple LGBT où oui, ça va être compliqué de faire accepter comme ça les enfants de couples LGBT. Oui, mais d'accord, mais ça, il faut que la société évolue.
Vous le rappeliez, hein, la France a été condamnée à 3 reprises par l'ONU. L'OMS a déclassifié l'intersexuation qui était jusque-là considérée comme une maladie pour parler aujourd'hui de troubles du développement sexuel, là où en France on parle encore parfois de maladie. Cette question de l'intersexuation pose aussi celle de l'état civil. C'est-à-dire que si une personne intersexe n'est pas opérée, qu'est-ce qu'il y a de marqué à l'état civil ?
Oui, en fait, voilà, ça va être F ou M. Il n'y a pas forcément d'opération, encore une fois. Hein, ça peut être l'intersexuation, c'est beaucoup de variations qui peuvent être, encore une fois, une hyperandrogénie. Alors, voilà, chez les femmes, donc on l'a vu avec des sportives, justement. Mais l'Allemagne a choisi de mettre en place le troisième genre, un genre un peu neutre, en expliquant que les personnes pourraient éventuellement décider plus tard, dans leur développement, de ne rien mettre ou de mettre, effectivement, M ou F à leur état civil. Moi, je pense qu'il faut supprimer ce truc des statuts, ça ne sert plus à rien. Enfin, non, mais c'est vrai.
Vous êtes d'accord avec ça? Il faudrait supprimer, Isabelle Motreau, le F et le M sur le état civil?
Oui, en fait, j'ai un peu triché parce qu'on en a discuté tout à l'heure. Hein,
les coquins.
Et moi, j'étais pour la case neutre, la possibilité d'une case neutre. Et en fait, en réfléchissant, effectivement, à quoi servent ces cases?
Alors, pourquoi vous étiez pour une case neutre et pourquoi après discussion.
Parce que je suis bonne, je sais faire les choses, je sais convaincre.
Parce que l'idée, c'est intéressant de pouvoir dire, bah non, moi, pour l'instant, je ne sais pas. Je me définis ni comme femme, ni comme homme. Mmh. Et dans ce cas-là, on coche la case neutre. Et puis, au fil de la vie, on peut choisir une case.
Vous en pensez quoi, Marion Vaquero et Christelle Delarue? Genre neutre, troisième genre, ou bien suppression des cases F et M sur les papiers d'identité?
Suppression des cases F et M sur les papiers d'identité. Je pense qu'on peut bouger d'un genre à l'autre tout au long de sa vie. Et pour rebondir, comment appréhender son corps, sa sexualité, son identité dès lors qu'il est mutilé à la naissance? Je pense qu'il appartient à chacun de vivre dans son corps avec ses orientations sexuelles et ses choix.
Marion Vaquero.
Oui, bah du coup moi sans suspense, hein, je suis aussi pour la suppression
case des genres. Alors je rappellerai pour celles et ceux qui nous écoutent qu'historiquement, on a créé ces cases F et M à la fois pour interdire les mariages du même sexe, pour pas maintenant pas dire qu'ils sont autorisés, et puis pour aussi attribuer des droits et des libertés différentes, suivant qu'on était F ou M. Tiens, je vous laisse imaginer qui avait plus de droits et qui en avait moins. Alors, en attendant que les choses évoluent, Christophe Marté, pour qu'on se rende compte de ce que vivent les personnes intersexes, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de Caster Semiena, championne olympique d'athlétisme?
Oui, alors elle est championne, moi je ne suis pas très sportif, hein, comme tu le sais, mais elle est double championne olympique et triple championne du monde du 800 mètres. Ouais. Donc c'est une femme sud-africaine qui a une hyperandrogénie naturelle, donc elle a un taux élevé de testostérone, et l'IAF a fait polémique parce qu'on lui a demandé, on voulait que ces sportives-là subissent des traitements médicaux pour faire baisser les taux de testostérone, voire même il y a eu récemment une sportive ougandaise qui a déclaré qu'elle avait été opérée des organes sexuels internes contre son gré par justement l'instance IAF.
IAF, on peut
International Athletic, je sais pas quoi.
Fédération,
sans
doute. Je pense.
Et voilà. Et par contre, non, mais ce qui est grave, c'est qu'effectivement, l'IAF reste sur ses positions. Caster Semenya n'a pas pu concourir, notamment là récemment, aux Jeux d'athlétisme. Et elle a fait un recours parce que on considère que, effectivement, c'est ce type de comportement. Voilà, ça dit, mais il y a une femme, il y a des femmes, elles sont comme ça, il y a des hommes, ils sont comme ça. Ben non.
On va rester avec vous, Isabelle Motreau, dans le domaine sportif, et c'est fou comme émission après émission, on se rend compte que sur les questions de genre, tout est décidément très très lié. Je signale simplement l'Exist Trans Inter, demain à Paris, marche des personnes trans et intersexes. Toutes les infos sur existtrans.org. Votre championne de la semaine, Isabelle Motreau, c'est elle, Alison Felix, sprinteuse américaine. Mais dites-nous tout, qu'est-ce qu'elle a de si spécial?
Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, figurez-vous qu'à peine remise d'un accouchement 10 mois auparavant, eh bien, elle est passée devant Usain Bolt.
Waouh! Ouais, mais Christophe et moi, on le fait sans problème.
Alors, en fait, elle a 33 ans, Alison Felix, c'est une des plus grandes sprinteuses de tous les temps. Certains le disent, enfin, beaucoup le disent. Elle a un petit surnom qui est tout à fait mignon, qui est Chicken Legs. Les jambes de poulet, parce qu'elle est très, très gracieuse et très rapide. Ouais. Et voilà, c'est son petit surnom. Mais surtout, donc, elle est, comme je vous le disais, pas passée physiquement devant Usain Bolt en courant, mais elle a obtenu une 12e médaille de championne du monde au championnat du monde du Qatar. Et Usain n'en a que 11.
J'avais lu même 13 pour elle, mais peut-être que j'exagère. Alors, encore.
Non, parce qu'elle a aussi d'autres médailles.
Olympiques,
etc. Non, mais en tout cas, ce qui est... Puis alors, en plus, elle n'a pas fini sa carrière, elle. Donc je pense qu'elle va...
J'adore le elle.
Alors qu'Usain Bolt, petit bonhomme, il est rentré chez lui.
Au revoir.
Alors, non, ce qui était intéressant en plus dans son cas, c'est que elle a une autre particularité, c'est que en mai dernier, alors qu'elle était enceinte, elle a renégocié son contrat avec son sponsor depuis des années, Nike. Ouais. Et alors, elle le dit elle-même, hein, je la cite. Elle nous dévoile donc les coulisses de la négo. Elle raconte, malgré toutes mes victoires, Nike voulait me payer 70% de moins qu'avant. parce qu'elle était enceinte et qu'elle allait punie. Être mère punie. Ouais. Voilà. Alors elle dit, si c'est ce que je vaux, ben je l'accepte, mais j'accepte pas ce statut autour de la maternité. Lorsqu'on a des enfants, il faut le savoir, nous risquons des baisses de rémunération de la part de nos sponsors pendant et après la grossesse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi elle a déclaré ça, elle a fait une déclaration, une tribune dans le New Yorker, c'est qu'en fait, toutes ses camarades, ses consoeurs athlètes, eh bien, vivent la même chose qu'elle, c'est-à-dire que c'est la loi du silence, parce que tous les sponsors pratiquent ce genre de truc. 70% de moins sur un salaire, vous imaginez, c'est énorme. Eh bien, c'est un truc qu'on pratique couramment à partir du moment où une athlète est enceinte et surtout
sauf que
quand
grâce
elle est
elle,
mère.
Nike a fini par capituler, je crois.
Eh bien, ils ont commencé à... Oui, ouais. Ils ont fini par capituler parce que Nike a fait des campagnes, et on revient à la pub, en démontrant qu'ils étaient pro-féministes, qu'ils allaient aider les adolescentes, etc. Ouais. Et évidemment, ça faisait très très mauvais dans le tableau.
Et c'est peut-être comme ça qu'ils sont rachetés. D'ailleurs, avec ce spot de pub de Nike l'an dernier, où ils ont fait appel à une autre grande championne, une autre grande gueule, Serena Williams.
Si on montre nos émotions, on nous traite de comédienne. Si on veut jouer contre les hommes, nous sommes dérangés. Et quand nous rêvons d'avoir les mêmes opportunités, nous délirons. Quand nous nous battons pour quelque chose, nous sommes des déséquilibrés. Comme nous sommes trop fortes, quelque chose ne va pas chez nous. Et si nous nous mettons en colère, nous sommes des hystériques, irrationnels ou simplement cinglés. Mais une femme qui court un marathon est folle. Une femme qui boxe est folle. Une femme qui met un panier, folle. Entraîner une équipe de NBA, folle. Une sportive de compétition en hijab qui fait évoluer son sport, qui réalise 3 tours complets ou remportant 23 grands chelems et qui revient après avoir eu un bébé, folle. Folle, folle, folle et folle. Alors, s'ils veulent vous traiter de folle, tant mieux. Montrez-leur ce que les folles peuvent faire.
Christophe Martel vient de dire, on va leur montrer ce que les folles peuvent faire. Christophe, je vous aime. Évidemment. Marion Vaquero, vous en avez pensé quoi, vous, cette pub?
J'adore cette pub, mais du coup, c'est vrai qu'on est en plein du coup féminisme washing, comme on disait, parce que Nike, il y a eu ce problème de grossesse.
Et alors, les folles ont eu leur peau, hein, finalement.
donc voilà, c'est vrai que j'étais tiraillée, en fait, parce que c'est vrai que la pub est très bien, mais là, du coup, on est vraiment dans le féminisme washing, quoi.
Christelle Delarue, vous êtes d'accord?
Absolument. Je préfère en anglais, je trouve. C'est juste pour l'émotion du film, mais je suis totalement d'accord. On a tous, ils ont eu un nombre de retweets, un nombre de partages. On a trouvé ça merveilleux. Et puis à chaque fois, on prend notre respiration, on dit comment ça va retomber. Et ben c'est très mal retombé. Et Serena Williams a supporté
très mal retombé à cause de cette polémique sur les salaires qui baissent.
Ouais. Donc, et en plus, ils l'ont vraiment déclaré. Qu'ils étaient pour l'égalité et pour les femmes sportives qui revenaient en plus après sur des grands chelems portés par Serena Williams. C'est impossible. C'est impossible de pas faire attention à ces contrats.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, les choses bougent, mais qu'il faut rester vigilant, prudent, méfiant.
Ouais. Faut être exigeant.
Isabelle Motreau, un dernier mot peut-être.
Oui, je voulais juste ajouter une chose formidable qui est un point commun, je trouve, entre toutes les athlètes femmes. Alison Felix, elle a félicité une autre championne en sortant des championnats, ce qui est quand même, les hommes ne font jamais ça. Et elle a dit, elle a fait un selfie avec elle et elle a dit, femmes, soutenons-nous les unes les autres, encourageons, ouvrons les portes, célébrons et élevons-nous, nous pouvons toutes gagner, c'est la sororité.
C'est vrai qu'elle est pas mal cette Alison.
Ah, on l'aime bien,
on valide. Et ben après, l'image des femmes dans la pub, on fera un jour une émission sur l'image des femmes dans le rap, si, on le fera. Lui, il est un peu trash, un peu brut de décoffrage, mais c'est comme ça qu'on l'aime, hein, du lundi au lundi. Niska, sur France Inter. Du lundi au lundi, où tu es fendi, on a le yébé, hein. Chez gros à petit, où sont les fimbi, où sont les ladies, hein. Toujours le temps.
galère, gang. Voir ma face devient ton malheur. Imbécile, trop loin, ma gueule, toujours dans l'avion. Tu cherches qu'on revient tout à l'heure. Putain, c'est mort. La dot est trop chère, je vais la passer. Façon, cousin, ou j'avoue qu'on a. Ici les zinzins, va chez les voisins. Ici les zinzins, braque les magasins. Bazar, charro ta cause même en bazin. La cité m'a dit de le faire. Promis, juré, je vais tout raser. Tu l'as né Hollande ou tu es Fendi?
Oui, on rigole dans ce studio. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, atmosphère sympathique, de l'ambiance, des gens chaleureux, et Christophe Martin, on est bien. Niska, du lundi au lundi, on est vendredi, et comme tous les vendredis, c'est Thierry Dupin qui fait DJ pour Pas son genre. Vous retrouverez tous ces choix musicaux sur franceinter.fr à la page de l'émission, pile à l'endroit où vous pouvez nous podcaster. Avouez que c'est plutôt bien pensé.
Pas son genre. Julia Foyce.
Et maintenant, imaginons un monde où l'on puisse se réinventer, où les sexes ne seraient pas assignés à résidence, où les genres seraient mouvants, on en ferait ce qu'on veut. Ce monde-là, c'est le nôtre. Aujourd'hui, depuis MeToo, c'est le vôtre. Vous qui nous écoutez, c'est celui de nos invités. Marion Vaquero, s'il y avait un objet qui racontait votre féminin à vous, mais alors de façon totalement subjective, hein, ce serait quoi?
Alors du coup, moi j'ai pris la souris d'ordinateur.
Elle est là.
Elle est là.
Elle est là.
Si, c'est ma vieille, mais elle est là.
Elle est un peu vintage, oui.
Ouais, elle a, elle a vécu.
C'est quoi l'histoire de cette souris?
Du coup, en fait, c'est vrai que quand j'étais au lycée, les seuls stéréotypes, on va dire, qui m'importaient, c'était les stéréotypes sur les jumeaux et les jumelles, parce que j'ai une jumelle et que du coup, c'est ma vraie jumelle, mon double maléfique, comme j'aime bien dire. Et j'avais pas du tout, en fait, cette notion de stéréotype sur le genre femme-homme, etc. Et en fait, je passais mes journées, enfin, du coup, après le lycée, à jouer aux jeux vidéo, à World of Warcraft, notamment, avec mes amis, donc des amis garçons. Et en fait, c'est après, quand j'ai fait Pépite et que je me suis intéressée à tout ça, aux stéréotypes, que je me suis rendu compte qu'il y avait, en fait, ce stéréotype de non seulement les femmes, bon, voilà, le monde du jeu vidéo, etc., c'est pas trop pour elles, mais en plus que les femmes et les hommes ne sont pas censés jouer ensemble, on le voit avec, voilà, les rayons genrés, les catalogues de jouets genrés. Donc voilà, donc du coup, elle me rappelle ce.
Tout est parti d'une souris.
Voilà, rien n'était.
Et tout est parti de votre sœur aussi, c'est elle qui vous a éveillé au féminisme.
Oui, oui, c'est elle.
Racontez-nous comment.
En fait, quand moi, du coup, j'ai un MBA en marketing, en commerce international, et quand j'apprenais à segmenter le marché et à jouer sur des valeurs considérées comme étant des valeurs féminines ou masculines, elle, en fait, à côté de ça, elle travaillait pour le projet Hypatia, donc pour, en fait, attirer les jeunes en sciences et notamment les femmes.
Engueulades à table
donc, du
coup, soir.
On en a parlé et c'est vrai que je me suis rendu compte que le marketing avait vraiment un rôle à jouer quant à la déconstruction des stéréotypes.
Donc c'est elle qui a gagné, en fait.
Ah, c'est elle qui a gagné. Mais elle est chez Pépite, elle est dans la soupe Pépite, là. Elle me conseille tous les jours.
Ah bah voilà, très bien. Christelle Delarue, je crois que ça se passe, votre féminin, ça se passe plutôt au niveau de la poitrine pour vous, c'est ça?
D'une oui,
poitrine.
Ouais, ouais, pour
assumer, des poitrines.
Ouais, des poitrines, des boobs, des femmes.
Les
plus
boobs.
De libération, moins d'armature. Ouais, ouais.
Et votre objet, c'est?
Mon objet, c'est une énorme balle anti-stress en forme de sein. Et ouais. On en a partout dans l'agence. Donc c'est malheureusement, c'est encore tabou sur les réseaux sociaux. C'est encore tabou dans l'industrie de la lingerie. Très érotisé, très sexualisé, mais c'est pas pour la représentation des corps des femmes. Moi, j'en ai toujours eu des tout petits. J'ai toujours été hyper complexée. Et en fait, je m'en fous. Donc ouais, on a ça à l'agence.
Et elle c'est te aussi... l'attrape, elle te l'empoigne.
C'est aussi pour
elle se défoule dessus. Les... Christophe Martin, un palpage de sein.
Je peux essayer.
Oui.
Ouais.
Alors,
c'est bien un début à tout, c'est très bien.
C'est aussi.
Ça déstresse.
Je peux essayer aussi.
Ça déstresse. Ça me.
Oh mon Dieu. Alors, il faut dire qu'il est plein d'eau en fait. Ouais, il faut quand rigolo. Même dire que de loin, ça fait un peu butternut ronde.
Un peu, il y a un peu de ça. J'essaierai pas de la cuisiner par contre, tenez.
À la mammographie, au cancer du sein.
C'est lourd.
Voilà, ouais. Ma mère, mes grand-mères, on a eu cancer du sein dans la famille, ma meilleure amie. Et pour moi, c'est important ouais, de pouvoir avoir toujours ça, cet esprit-là, la féminité à la fin et qu'on puisse reprendre nos droits sur nos corps.
C'est et la féminité et le combat, quoi,
ouais.
Pour vous,
ouais.
Cet objet-là. Ouais. Même question qu'à Marion Vaquero, rapidement, votre déclic féministe à vous, c'était quand ?
Oula,
c'était avec votre poitrine ou pas ?
Non, je pense que j'étais contre les injustices petites, j'ai été élevée par dans une éducation non genrée, mais il était compliqué pour moi de voir que c'est plus difficile pour ma mère que pour mon père, que je vivais aussi des paradoxes à être en banlieue, à rêver de passer le périph et à avoir de l'argent pour m'acheter des sacs à main, c'était pas normal. Et je suis rentrée dans cette industrie de la pub en me disant c'est marrant, c'est quand même une machine à comprendre parce que c'est pas normal que je souffre d'autant de complexes alors que je pourrais m'émanciper par ailleurs. Et je pense que c'est pour moi c'est plus congruent qu'un déclic.
C'est un ensemble qui a conduit à l'agence Mad & Women et à votre association Les Lyonnes. Merci infiniment Christelle Delarue d'être passée nous voir. Marion Vaquero, votre association Pépite Sexiste, on la retrouve bien évidemment sur Instagram et sur Twitter puisque c'est là que tout a commencé, et Facebook aussi. Merci à nos deux camarades de jeu et partenaires de genre, Isabelle Motro, retouchée, s'est trompée, c'est la une du Cosette du mois d'octobre, Christophe Martet à la une de Comitide, un édito sur la baisse des contaminations au virus du sida, une bonne nouvelle, mais pas que. Restez à l'écoute de France Inter juste après le flash. Vous retrouverez côté club, je vais y arriver, Laurent Goumard en musique et en live. Allez, à la semaine prochaine, bisous.